Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, la dernière de la semaine puisqu'on est vendredi, mais c'est aussi la dernière avant mes vacances, mais on se retrouvera bien entendu dans une semaine pour découvrir encore plein de nouveaux jeux de société. D'ailleurs, j'en ai pas mal à vous présenter. Mais aujourd'hui, on va partir, avant de retrouver Morgane pour soirée jeu, du côté de la jungle. Au menu aujourd'hui, c'est Yutan, un jeu de Asger Harding Granerud, Daniel Skold Pedersen, illustré par Vincent Dutray, pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors Yutan en indonésien, ça signifie forêt tropicale. Dans ce jeu de placement de tuiles, votre but sera de planter des fleurs pour faire pousser des arbres et attirer les animaux sauvages. Alors au niveau de la mise en place, bon déjà lors de votre première partie, vous avez pas mal de dépunchage et d'assemblage, notamment de 64 arbres. Chaque joueur va assembler son plateau avec 4 tuiles de forêt tropicale afin de former un carré. Ces forêts sont délimitées. On pose au centre de la table les jetons fleurs, les animaux en bois et bien sûr tous les arbres, sans oublier les cartes fleurs. Vous en dévoilez un certain nombre selon le nombre de joueurs. À 3, vous en dévoilez 5. Vous mettez également le pion pangolin. Voilà, vous êtes prêt à jouer. C'est parti pour 9 manches. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez devoir planter des fleurs. Chaque joueur récupère une carte contenant des symboles fleurs et dispose ses fleurs sur son plateau personnel. Alors attention, on ne pose pas les fleurs n'importe comment. Elles doivent être adjacentes, mais pas forcément sur la même forêt. Il est possible aussi de poser une fleur sur une fleur de la même couleur pour y faire pousser un arbre. Si vous prenez le pion pangolin, vous choisissez une fleur de la couleur que vous souhaitez et chose importante, vous serez le premier joueur lors de la prochaine manche. Ensuite, vous allez étoffer votre forêt. Quand vous arrivez à poser deux fleurs de même couleur, un arbre pousse. Mais il faut bien se mettre en tête que si une zone de forêt est commencée, elle doit être terminée, car sinon, ça vous donne des points négatifs en fin de partie. Les zones font entre 2 et 5 cases. Si elles ont des fleurs de couleurs différentes, là aussi ça vous donne des points négatifs, c'est pas terrible. Il faut bien réfléchir avant de poser une fleur dans une zone. Puis vient le moment où un animal peut arriver. Mais attention, ce sont des espèces rares. Les premiers qui termineront leur zone forêt seront les premiers à choisir. Alors si ta zone forêt ne contient que des fleurs de même couleur, habituellement quand tu poses une fleur sur une fleur, tu poses un arbre. Mais pour la dernière fleur de la zone, tu poseras donc un animal de la même couleur que la fleur. Pour les fleurs rouges, tu prends le gorille. Ensuite, cet animal, eh bien, il fertilise la terre. Donc, un bonus va arriver. Tu vas pouvoir poser des fleurs sur toutes les cases adjacentes. Du coup, forcément, ça pousse plus vite. Au bout des 9 manches, on score 2 points de victoire par arbre, les points des animaux des zones complètes et on enlève les points négatifs. La personne avec le plus de points de victoire l'emporte. Il existe des variantes avec des cartes écosystèmes et un mode solo que je vous laisserai découvrir. Alors, ce que j'en pense de Yutan, c'est un jeu accessible pour la famille, mais il faudra bien réfléchir à quel endroit poser ses fleurs. Forcément, les autres joueurs feront tout pour vous prendre vos fleurs, d'où l'importance d'avoir le pangolin. Car même s'il ne rapporte qu'une seule fleur, il vous donne le droit de commencer à jouer en premier lors de la prochaine manche. Et parfois, c'est primordial. Si vous aimez les jeux à la Cascadia, Yutan est un jeu qui est fait pour vous. Et voir votre forêt en 3D se développer sous vos yeux, c'est quand même bien sympa. Voilà, ça s'appelle Yutan et c'est sorti il y a quelques semaines chez Lucky Dead Games. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour Soirée Jeux. Salut Morgane.
Salut.
Alors ce week-end, je suppose que tu as eu le temps de jouer.
Oui, j'ai joué. Alors pour le coup, on va faire une spéciale petit jeu.
Petit jeu.
Aujourd'hui,
d'accord.
Voilà, c'est du petit jeu, petit format. Donc il y a 4 jeux à vous présenter.
Ouais.
On commence avec Abyss Conspiracy.
Oui.
Si le nom vous évoque quelque chose, c'est pas pour rien, puisqu'on est dans l'univers du célèbre Abyss de Bruno Catala et Charles Chevalier. Donc Abyss Conspiracy, c'est sorti en 2020 chez Bombix et c'est illustré par Pascal Kilo. Et en fait, dans cette version, on va devoir gagner de l'influence en recrutant des seniors les plus avantageux possibles et en les mettant dans notre chambre sénatoriale pour qu'elles soient la meilleure à la fin. Donc à chaque tour, on va avoir 2 actions à réaliser, on va recruter et on va placer nos seigneurs dans la chambre sénatoriale. Donc la première action, c'est le recrutement. Et pour ça, on va avoir 2 possibilités. Donc soit on va piocher de 1 à 3 cartes dans la pioche qui sera face cachée et on va en choisir une seule, donc une seule carte seigneur qu'on va ajouter à notre chambre. soit on va pouvoir aller récupérer des seigneurs qui sont déjà défaussés d'une seule couleur mais qui seront face visible au centre de la table, parce qu'en fait les cartes piochées qu'on ne choisira pas si on pioche face cachée, ouais, on va les mettre face visible au centre de la table par couleur. Donc à son tour, un joueur peut être amené à en récupérer plusieurs d'un coup d'une même couleur, donc ça peut être avantageux. La chambre sénatoriale, elle sera représentée par une zone devant nous qu'on fera en pyramide inversée en fait. Donc il y aura une première ligne avec 5 seigneurs, une deuxième avec 4, etc. jusqu'à tomber à 1. Et en fait, la subtilité, c'est que les seigneurs de la chambre sénatoriale, ils seront placés dans l'ordre dans lequel on les récupère. Donc on ne pourra pas les placer comme on veut, il faudra vraiment les placer à la suite, de haut en bas et de gauche à droite du coup. Il y a certains seigneurs qui ont des pouvoirs, donc ils vont pouvoir apporter des clés, des perles, mais aussi permettre d'inverser l'emplacement de deux cartes. Donc ça, ça pourrait être utile justement parce que y a ce problème de pose où on n'a pas le choix de l'emplacement à la base. Mmh. Et sur les seigneurs, on va aussi trouver des points. Donc en fait, à la fin de la partie, dans chaque couleur, on va scorer le seigneur qui aura la plus forte valeur. Donc c'est quand même utile d'avoir des seigneurs de grande valeur. Et les clés, elles vont permettre de récupérer des lieux. Donc sur le même principe de pioche que les seigneurs, on va en piocher plusieurs. Et ça nous fera des points supplémentaires en fin de partie selon les conditions indiquées ou des avantages en cours de partie. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un seul joueur remplisse entièrement sa chambre sénatoriale. Donc là, il met fin à la partie même si les autres n'ont pas terminé. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui va forcément l'emporter. Mais pour ça, on va avoir celui qui a le plus de perles qui va devenir seigneur des perles et qui va remporter des points en plus. Et on va ajouter aussi des points pour la plus grande série de seigneurs adjacents de même couleur.
D'accord.
Donc chaque carte en fait de la chaîne, elle fera gagner 3 points supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que généralement, on essaye quand même de viser les couleurs qu'on veut pour agrandir notre chambre. Avant de jouer la première fois à cette version, j'avais jamais joué au Abyss de base, donc j'avais aucune comparaison possible. Depuis, j'ai joué et en fait, c'est vrai que dans cette version, on retrouve pas mal de similitudes avec Abyss quand même. Mmh. Mais dans une version carte, donc forcément plus rapide à jouer.
Au final,
on a des mécaniques de collection, d'optimisation, avec des règles qui sont quand même vachement accessibles. Mais forcément, pendant la partie, on va constamment chercher à s'avantager avec les seigneurs qu'on récupère, sans prendre trop de retard non plus dans la composition de notre chambre, parce qu'on sait que les autres, s'ils avancent bien et que nous, on n'avance pas trop, on va se retrouver forcément à faire des choix. En plus, quand on pioche plusieurs seigneurs, on sait que ceux qu'on va pas choisir, ils vont aller au centre de la table, donc ils seront pour les autres aussi. Donc on va essayer de pas trop leur laisser non plus des bonnes cartes. Donc voilà, il y a un côté prise de risque qui s'installe rapidement, en plus de la stratégie, à savoir si on privilégie les lieux en récupérant des clés ou les seigneurs qui font le plus de points. En fait, chaque partie, elle est différente, donc ça joue vite, on peut rapidement faire une derrière. Côté format, on est sur une petite boîte métal. Qui s'embarque facilement avec nous.
Alors, qui est carton maintenant à la boîte
Ah, c'est vrai, là, en carton. Ouais. Moi, j'ai la boîte métal encore, donc. Ouais. Donc, c'était peut-être mieux. Je sais pas si. Ils ont fait toute une gamme, du coup, dans ce.
Oui, ils commencent à faire le format carton pour Codex, pour toutes ces boîtes
d'accord,
carrées.
Ouais. Ok. Je savais pas. Voilà,
boîte métal, c'est dans ma boîte terminé. Comme chez Gigamic, qui est terminé les boîtes métal.
Gigamic, j'avais vu, mais je savais pas que Bombix faisait pareil.
Ouais.
Mais du coup après le format change rien au jeu de toute façon, mais en plus on a des visuels qui sont hyper beaux, ça nous plonge vraiment dans l'univers d'Abyss, et en fait cette version d'Abyss elle est fluide, elle est dynamique, et pour moi ça permet une belle entrée dans la matière avant d'aller sur un gros Abyss, parce que Abyss c'est quand même costaud à côté. Mais du coup c'est une jolie entrée en matière, et puis c'est vrai que j'aime bien y jouer de temps en temps, j'ai toujours plaisir à y jouer.
Et si vous aimez Abyss, forcément ne manquez surtout pas au mois d'octobre Légion, qui est donc la version 2 joueurs d'Abyss, donc Abyss Duel. Je l'ai testé à Cannes, et franchement, c'est une tuerie, quoi.
Ouais, donc, j'ai hâte de l'essayer celui-là, parce que tu vois, autant en Abyss, j'ai du mal à le sortir.
Donc Abyss c'est plus compliqué à le sortir. Abyss, c'est plus compliqué à le sortir, parce que c'est du gros jeu, forcément. Mais la version Duel, là, c'est vraiment très très bien, il y a de la tension et tout, du tir à la corde, enfin c'est... Ouais, non, franchement, c'est...
Ouais, faudrait que j'essaye ça.
C'est top. Deuxième jeu, Morgane.
Deuxième jeu, on continue avec G-Pure, qui pour moi, c'est un classique des jeux à deux.
Oui.
On est sur une réédition, ça a été le premier jeu ressorti chez Space Cowboys dans leur gamme à deux joueurs qu'on connaît bien aujourd'hui. G-Pure, c'est un jeu de Sébastien Pochon qui est illustré par Vincent Dutré, et cette réédition, elle est sortie en 2019, mais le jeu original, il date de 2009. Donc dans ce jeu, les deux joueurs vont incarner des marchands, et leur but principal, ça va être de devenir le meilleur marchand de Maharaja. Et pour ça, on va jouer 3 manches, donc à chaque tour, on aura 2 possibilités, soit on va prendre des cartes, soit on va en vendre. Pour en comprendre, on va avoir le choix entre prendre une seule carte marchandise sur un marché qui est visible au centre de la table, sans rien échanger, mais on va pouvoir aussi échanger plusieurs marchandises de notre main contre d'autres qui sont au centre de la table, ou décider d'embarquer toutes les cartes chameaux d'un coup. Ces cartes chameaux, elles seront utiles pour faire des échanges contre d'autres marchandises, mais aussi pour récupérer des points en fin de manche, parce que si on est celui qui en a le plus, on récupère un petit jeton avec des points supplémentaires. Autre possibilité, c'est donc de vendre des cartes. Donc pour ça, on va choisir un seul type de marchandise dans notre main. On va défausser autant de cartes qu'on veut de cette marchandise, et en échange, on va récupérer un jeton avec des points dessus par carte qu'on aura vendue, et un petit bonus supplémentaire si on vend entre 3 et 5 cartes de la même marchandise d'un coup. Donc t'as certaines marchandises qui sont plus rares que d'autres, donc on va forcément viser celle-là en premier parce que c'est celle qui rapporte le plus de points. La fin de la manche, elle se déclenche quand 3 types de jetons, marchandises ou que la pioche sont épuisées. À partir de là, on va compter les points de tous nos jetons qu'on aura récupérés, du jeton chameau pour celui qui en a eu le plus et qui le possède, et on repart sur une nouvelle manche parce que ça se joue en 2 manches gagnantes. La version sortie par Space Cowboys, elle était sortie pour les 10 ans du jeu.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a donné un petit coup de fraîcheur en fait au jeu, en le remettant aussi en avant, parce que forcément en 10 ans, il y a eu plein d'autres sorties ludiques, mais du coup ça le remettait vraiment en avant dans les boutiques, et je pense que ça lui a vraiment fait du bien d'avoir ce petit coup de refresh. Mais pour le coup, c'est un jeu à deux que j'aime beaucoup, parce qu'en fait à chaque partie et même à chaque manche, c'est différent, en fait tu joues vraiment pas de la même façon. On a vraiment le côté stratégique qu'on soupçonne vraiment pas au départ, et on sait pas vraiment l'avance ou le retard qu'on a sur l'autre joueur, parce que des points, on sait pas ce qu'on a récupéré. Donc c'est vrai qu'on se livre une vraie guerre des marchandises au final. Donc on contrôle pas le marché, donc parfois on va râler de voir que les meilleures marchandises, elles sortent pour l'autre joueur et pas pour nous. Pour le format, c'est vrai que c'est pas du tout dérangeant. Et comme ça se joue en 2 manches gagnantes, on a le temps quand même de se rattraper. Donc on reste sur des mécaniques simples, ça reste accessible, c'est aussi idéal pour jouer avec les plus jeunes. Je trouve que c'est
un vrai classique du jeu de joueurs, Jaipur, franchement.
Oui, Jaipur, c'est vraiment. Après, ils en ont fait plusieurs, Space Cowboys, mais c'est vrai que je pense que Jaipur, ça reste leur classique à deux joueurs dans ce format.
C'est d'ailleurs chez Space Cowboys un nouveau jeu de joueurs qui arrive. S'appelle Garden Rush avec des légumes. Et contrairement à ce que vous voyez, la boîte fait enfantin, mais le jeu n'est pas du tout enfantin.
Non, pas du tout,
Voilà, mais comme je dirais, quand je le présenterai, les enfants ont droit d'avoir des légumes, mais les parents aussi peuvent jouer avec des légumes. Il n'y a pas de souci, franchement.
Mais c'est une année jeu à deux en plus, parce que Toy Battle, c'est le même effet en fait.
Ouais. Complètement. Et Toy Battle, tu joues avec tout le monde. On aura l'occasion aussi d'en parler, mais un petit peu plus tard de Toy Battle, parce que ça arrive début mai. Ensuite, Morgane.
On continue avec Time Bomb Undercover, donc là on revient sur du plus récent. C'est un jeu de Quentin Schumacher et Yusuke Sato qui a été illustré par Amélie Guinée. C'est sorti en novembre 2024 chez Yellow, donc là on est vraiment sur du plus récent.
Ah oui.
Donc, si le nom vous parle, c'est pas pour rien non plus, parce qu'il s'agit d'une nouvelle version du célèbre Time Bomb. Dans cette version, on retrouve l'organisation de Mister X contre l'agence avec Jack Belleville, mais surtout en fait on va découvrir un nouveau personnage avec Shadow, qui fera en sorte de retourner la situation en un rien de temps, et surtout à son seul avantage. Donc comme dans Time Bomb, on devra faire en sorte, selon l'équipe dans laquelle on est, de couper les bons fils pour éviter que la bombe explose, ou justement de faire en sorte qu'elle explose. Au début de la partie, on va donc découvrir secrètement si on est du côté des gentils ou des méchants, et le but, ça va être de comprendre quels autres joueurs sont avec nous, à qui on peut faire confiance, et donc d'identifier les bons partenaires qui sont de notre côté. En fait, tour à tour, on va aller choisir un câble à aller couper chez un autre joueur. Et là, forcément, ça va y aller en mauvaise foi et compagnie, parce que nous, on connaîtra nos fils. On connaîtra pas l'ordre, mais on connaîtra nos fils. Donc, c'est vrai que si on est du bon côté, on fera en sorte que les gens viennent chez nous pour couper des fils. Mais l'inverse sera aussi valable pour les méchants. Donc voilà, le tout, c'est d'essayer de pas être démasqué trop rapidement non plus. Et en fait, on va enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un certain nombre de fils soient coupés et les manches vont recommencer comme ça tant que la bombe n'a pas explosé ou que les bons fils de couleur n'ont pas été coupés. Mais la subtilité de celui-là, c'est donc la présence de Shadow, qui peut décider de s'annoncer du côté gentil ou du côté méchant, tout en sachant qu'il ne gagnera que s'il est seul à la fin à faire l'action finale. On a aussi des agents infiltrés qui, eux, vont indiquer faire partie d'une équipe, alors qu'en fait, ils sont en réalité dans l'autre équipe. En fait, dans le time bomb d'origine, t'as déjà un bon côté traître qui s'installe dans les parties. Mais là, en plus de retrouver ce côté-là, eh ben, tu deviens carrément parano, en fait, quand tu joues à ce jeu. Parce que tu sais pas réellement qui est de ton côté.
Surtout,
surtout avec les agents infiltrés, en fait. Enfin, moi, c'est eux qui m'ont mis le plus de doutes. Et quand tu le joues, c'est encore pire. Parce que tu te dis, en fait, je suis en train de dire que je suis dans telle équipe. Donc, il va falloir que je joue le jeu, de pas me faire griller trop rapidement. Mais voilà, en plus, en début de partie, on montre notre symbole d'appartenance à l'un de nos voisins. Donc, voilà, si on sait qu'il y a les agents doubles, ça rend assez dingue. Autre nouveauté de cette version, c'est les lieux.
Ouais.
Qui vont apporter des effets de jeu en cours de partie ou même en début de partie. Et c'est typiquement des cartes qui peuvent te retourner la situation en un rien de temps, parce que tu vas peut-être des fois annoncer carrément ce que tu es à quelqu'un. Et puis tu vas pouvoir donner aussi le nom d'un indique que tu es. C'est le genre de jeu qui joue vite, on veut enchaîner les parties, et forcément, bah, plus on est nombreux, plus ça prend. Pour moi, c'est un incontournable des jeux de bluff à rôle caché, en fait, parce que vraiment, on est à fond dedans. On n'oublie pas en plus que là, il y a Shadow, donc lui, il va devoir gagner tout seul, peu importe comment, hein, soit en désamorçant la bombe, soit en la faisant exploser. Et donc forcément, entre chaque coupe de fil, bah, on va essayer d'influencer bah, le joueur qui va aller couper, pour éviter qu'il fasse une bêtise ou voilà, ou qu'il nous aide un peu plus. Et l'avantage de cette version, c'est qu'on découvre à la fois une version améliorée, donc avec Shadow, les agents doubles et les lieux, mais en même temps, on peut jouer à la version Time Bomb de base, en retirant du coup tout ça, et on peut jouer avec la même boîte.
Oui,
donc, c'est vrai que c'est une boîte idéale pour ceux qui l'ont pas, quoi.
Ouais, en gros, bah, moi je joue plus avec la première version, hein, déjà, donc c'est.
Ah bah pareil, moi j'ai que la Undercover.
Voilà. Ouais, donc. Voilà, donc Time Bomb Undercover, donc si vous aimez les jeux de bluff, à ne surtout pas à manquer. Eh bien, merci beaucoup Morgane, à bientôt, salut Morgane.
Bonne semaine, salut.